un peu plus de deux semaines, le lundi 2 octobre, j'ai envoyé un mail à mon invité d'aujourd'hui. On ne s'était pas parlé depuis quelques mois, mais la soudaine omniprésence sur Twitter de la polémique Ango-Rousseau et leur face-à-face houleux dans l'émission On n'est pas couché de France 2 sur la parole des victimes d'agressions sexuelles m'a donné envie de lui parler. Il faut dire que le cadre dans lequel nous nous sommes rencontrés nous avait donné l'occasion de beaucoup parler justement de ces questions et de nombreuses autres qui les entourent. Je ne savais pas à l'époque que nous étions au début d'un déluge de controverses, de révélations, d'articles, de récits personnels qui allaient se propager sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux et allaient mettre en avant la question des violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi aux hommes, dans le cadre du travail, mais aussi du reste de leur quotidien, aux États-Unis, mais aussi chez nous. J'avais déjà besoin d'en parler avec elle il y a deux semaines. Là, ça devient une nécessité vitale. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter celle qui est l'invitée de cet entretien un peu particulier. Bonjour Patience et bienvenue dans un épisode très spécial de Parlons Pop et Parlons Bien.
Bonjour Yaël, merci de m'avoir invitée.
C'est un plaisir. Alors Patience, tu es auteur-réalisatrice même, comme on dit, photographe, tu as été productrice dans le cinéma et l'audiovisuel en général. On s'est rencontrés dans le cadre de la formation que j'anime sur l'écriture de séries. Tu veux nous en dire un peu plus sur toi ?
Oui, alors donc moi je suis une cinéaste, filmmaker, comme j'aime le dire. J'ai une formation à la base de chef opératrice et pendant une douzaine d'années j'ai été productrice. Je suis revenue à mes premiers amours il y a quelques années, donc l'écriture. J'ai fait la formation Créer une série dans le but de m'investir et de développer un concept de série, une série que j'ai écrite il y a déjà quelques années, et là je voulais la reprendre avec méthode et être en capacité donc de la présenter à des producteurs, car c'est une série qui me tient vraiment à cœur.
Et qui justement parle de ces questions dont on va parler aujourd'hui et dont on
exactement.
Parle tout d'un coup partout en ce moment.
Partout, exactement. Ouais.
Donc sans spoiler la série, hein, on va juste dire que le lieu principal de la série, c'est une association de lutte contre le viol et d'aide aux victimes, ou survivantes justement, comme nous on aime bien les appeler.
Tout à fait, le titre original était Écorché vive au départ, et maintenant il s'appelle Les Résilientes. L'idée originale a déjà 10 ans, si ce n'est pas un peu plus. Et c'est vrai que j'ai voulu évoquer à travers le quotidien de cette association les héros sociaux qui accompagnent dans ce système judiciaire qui a pas mal de failles, mais aussi parler du parcours de reconstruction des victimes et parfois d'autodestruction. Et c'est une manière pour moi, à travers cette série, d'avoir une discussion et, avec la société. Elle est aspirationnelle, donc elle vise aussi à inspirer des idées sur comment aujourd'hui la société pourrait évoluer pour
répondre à cette épidémie,
voilà, le viol et l'agression sexuelle.
Donc voilà, donc du coup on était effectivement au cœur du sujet pendant les deux mois de la formation, on a beaucoup parlé aussi avec les autres stagiaires, du coup je t'ai fait regarder Sweet Vicious, qui était ma grande série du printemps, sur lequel j'ai enregistré un long podcast que je n'ai toujours pas mis en ligne, ce sera le cas un jour, bientôt.
J'ai hâte.
Et donc voilà, donc ça c'est un peu le background de notre relation qui s'est transformée en amitié, et là tout d'un coup, donc il y a deux semaines... tout d'un coup, sur Twitter, je commence à voir tout un tas de choses dire sur Christine Ango et Sandrine Rousseau, sans vraiment comprendre le contexte. J'ai mis d'ailleurs plusieurs jours à trouver une vraie information qui contextualise ce qui s'était passé sur France 2. Et du coup, j'ai eu envie de t'appeler parce que je disais, mais ma première réaction, donc on va revenir un peu sur ce qui s'est passé, mais en gros, ma première réaction, c'est que je voyais des choses écrites qui semblaient très à l'emporte-pièce, et je me suis dit il y a vraiment un déficit d'informations et de connaissances sur les sujets autour des agressions sexuelles chez nous. Hein. Pas que chez nous, mais là, chez nous, ça m'a frappé quand même. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, faut que je parle à Patience, faut que je demande ce qu'elle en pense et comment elle le vit. Et d'ailleurs, voilà, et c'était que le début, et là, entre-temps, on va parler du fait que l'affaire Weinstein est sortie, et tout d'un coup... Le hashtag MeToo et le hashtag Balance ton porc sont arrivés sur les réseaux sociaux avec plein de gens qui commencent à partager, des gens célèbres et des gens du quotidien, de nos vies, qui commencent à partager sur Facebook leurs histoires et leurs récits. Et du coup, je voulais te demander, avant toute chose, comment tu te sens ?
Alors, j'étais surprise, j'ai été prise de court. Donc, d'abord, sur ONPC, donc on n'est pas couché, Rousseau en gauche, j'étais très énervée. Mais très vite, en revoyant l'émission, j'ai vu surtout qu'il y avait une incompréhension dans le contexte où elles ont eu cet échange. Et donc, moi aussi, j'avais beaucoup envie donc, de parler de cet échange entre Ango et Rousseau, parce que j'étais finalement d'accord avec les deux. Pour moi, aujourd'hui, il faut parler, et on le voit aujourd'hui, c'est très important. C'est libérateur, c'est protecteur, même d'une certaine manière, à certains niveaux. Mais la réalité, c'est qu'en parlant, qu'on soit entendu ou pas, il va falloir se débrouiller pour se reconstruire, se débrouiller pour reprendre confiance et avoir en la société, en soi-même, aux hommes aux autres, tout simplement.
Et donc ça, il y a 2 semaines, donc tu as commencé, tu étais énervée. Là, aujourd'hui, 2 semaines plus tard, après...
Bah, je suis très contente qu'il y ait l'affaire Weinstein qui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc là, je suis surexcitée. Je m'y attendais pas. Donc je suis déterminée aussi à agir, à faire partie de quelque chose qui ne soit pas un buzz, mais qui ne retombe pas. Et d'où, je pense, notre initiative aussi. On en parle, on est encore dans cette turbulence, cette avalanche de témoignages et autres, mais moi-même j'ai envie de témoigner, participer. J'ai longuement réfléchi sur ces problématiques, sur ces questions et être force de proposition parce que je pense que les médias et l'industrie du rêve a beaucoup à jouer
Ah, ça c'est sûr.
pour aider en tout cas à faire évoluer les mentalités, voilà, notamment
Bah, c'est sérieux, je
contre
disais,
la
je suis
culture
surexcitée,
du
moi
viol.
aussi je suis surexcitée, mais bon, il y a quand même un côté, moi je suis aussi un peu fatiguée, quoi. Enfin, tu vois, moi, ça fait. Je veux dire, le fait que ça fait 5 jours de suite que je peux pas allumer Facebook et Twitter sans lire un récit de quelqu'un de nouveau, de quelqu'un de célèbre, de quelqu'un de pas célèbre, d'une amie. Donc il y a ça d'un côté, il y a le fait que faut répondre aussi à tous les commentaires débiles qui sont écrits sous ces récits, surtout sur Facebook. Pour le coup, sur Twitter, je les ignore plus, mais sur Facebook, il y a le côté des gens que tu connais ou des amis d'amis. Tu as une amie qui poste un truc et tu as certaines de ses connaissances qui racontent des conneries en dessous, et tu as l'impression de devoir donner des cours d'éducation civique. Et c'est bien, hein. Enfin, moi, je veux dire, je regrette pas de le faire, hein, mais c'est vrai que c'est éreintant, en fait, de faire ça. Et ensuite, il y a le côté de devoir accepter le fait que tous ces gens sont surpris, sont inconscients, sont... Enfin, tu vois, et la charge que c'est d'imaginer toutes ces femmes pour qui c'est des choses avec lesquelles elles vivent depuis toujours, et tout d'un coup te dire putain, et tout ça c'était à l'intérieur de leur vie et de leur quotidien, et tous ces autres gens-là ne le voient pas, n'y pensent pas, n'y réfléchissent pas. Donc oui, après moi je veux pas que ça s'arrête, hein. Moi j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai pas envie de parler d'autre chose, j'ai pas envie de réfléchir à autre chose en ce moment, c'est sûr.
Mais c'est vrai que c'est épuisant parce
Mais
que
voilà,
moi
je vais parler quand même de ce
je.
côté un peu genre
Bah, il y a quelque chose de. Donc, ce gêne, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, il y a 5 ans, quand il y a eu le manifeste des 313, donc manifeste. Donc,
recontextualise d'où ça?
c'est un manifeste donc, qui a été lancé par Clémentine Autain. Et c'est un viol, c'est un manifeste contre le viol, mais surtout qui avait pour objectif de dénoncer le nombre de femmes, d'agressions sexuelles en fait, et surtout qui faisait référence à un manifeste féministe des 343 salopes, bref,
Pour le droit à
qui
l'avortement.
avait droit à l'avortement. Et à la suite de ce manifeste, il y a eu aussi un documentaire d'Andrea Rollins qui est passé sur France Télévisions. Là, déjà, on pouvait déjà voir les réactions des gens, mais c'était que la parole des victimes. Il y avait des personnalités, mais pas aussi connu que les stars hollywoodiennes, mais il y avait déjà des personnalités qui s'étaient manifestées. Ça a été très timide, très pudique, et pourtant il y a eu un forum, donc il y avait déjà eu une déferlante de témoignages sur le forum ouvert par France Télévisions, timidement, mais quand même sur les réseaux sociaux, pas comme aujourd'hui, on va dire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est parce que déjà ça vient de l'extérieur. parce que c'est Hollywood, les strass, c'est la visibilité, et que surtout, on a encore une fois nommé une personnalité qui n'est pas qui est internationale. Le manifeste, il a été fait, c'était l'affaire DSK, et tout était fait, je trouvais, dans les médias ou autres, pour tout le temps tempérer, diminuer,
Oui, alors que
dire que c'était exagéré,
là, on a
alors
l'impression que c'est
que
un peu différent quand même.
là, carrément. Donc moi, c'est en ça que je disais que c'était une agréable surprise. Parce que moi, j'ai témoigné, j'ai participé à ce documentaire. Je n'ai pas de prise de parole directe, mais j'ai signé manifeste et autres. Et je suis présente dans le documentaire. Mais je vois que ça crée énormément de gêne en termes pour les gens. Ils remettent beaucoup en question, quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait cette impunité que les chiffres soient tellement énormes que ça paraît improbable
Ils sont là, c'est pas possible qu'il y ait eu autant de viols parce que si
voilà.
personne est en prison, ça veut bien dire qu'il n'y en a pas eu autant. C'est un peu
Et
cette
pourquoi ils ne
espèce de
portent pas
logique
plainte?
à
Les gens ont
l'envers.
une incompréhension, hein, donc on se rend compte qu'il y a une éducation clairement à faire
Et d'ailleurs, on va reprendre le coup
avant. Oui.
on va reprendre avec On n'est pas couché, on va recommencer là-dessus. Je voulais juste préciser que je pense que la raison aussi pour laquelle la déferlante est telle aujourd'hui, et même si c'est horrible à lire, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de témoignages de harcèlement. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, on n'est pas en train, on est dans peu de cas, il y en a, mais on est dans moins de cas en train de parler d'agressions sexuelles et notamment de viols caractérisés. On est en train de parler de tout un tas d'autres choses qui sont d'ailleurs,
Ben
enfin, qui sont
merci
dans
à
un
elle, ben
continuum.
oui, c'est une observation aussi que j'ai faite. Je me suis dit peut-être c'est encore, pour le moment c'est peut-être plus simple, enfin oui plus simple de parler d'agression, du harcèlement au quotidien parce que ça continue, ça concerne encore plus de femmes, donc on va dire de victimes. On est un peu moins dans les survivantes hein, sur cette question.
Ouais.
Et il y a agression sexuelle, et là je tiens absolument à parler de la différence entre agression sexuelle et crime sexuel. Et un viol, c'est un crime. Donc je trouve que pour les gens, même dire un agresseur, un violeur, c'est un violeur, un agresseur, c'est une agression, ça a vraiment des particularités spécifiques qui disent c'est une agression. Et en plus, une autre problématique qu'on retrouve dans le viol, c'est que beaucoup de cas sont requalifiés en agression sexuelle pour passer plus vite en tribunal ou autre, d'où les chiffres tronqués de peu de gens qui portent plainte, qui ont été encouragés à faire passer ça en agression sexuelle, alors qu'il y a une bonne, de nombreuses fois, je pense même la majorité des cas, sont des viols. Quand on regarde les minutes, quand on lit les minutes des procès, etc., ou des déclarations.
Mais alors, moi, je trouve ça pas inintéressant. Donc, je pense déjà qu'il y a l'idée que le viol est quelque chose de très traumatique, rien que le mot à entendre pour les gens qui sont absolument pas. Enfin, pour tout le monde, hein, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose pour les gens qui sont absolument pas au courant, informés, éduqués sur ces questions-là. C'est horrible. Harcèlement, quelque part, enfin, quelque part, c'est moins. Ça leur donne, je pense, tout simplement moins envie de vomir tout de suite, d'imaginer une
Tout à
agression
fait.
sexuelle que d'imaginer un viol, même si c'est. Voilà. Après, moi, je trouve ça important et bien parce que c'est un continuum et qu'en réalité, on pense bien entendu qu'une grande partie des raisons pour lesquelles il y a autant de crimes sexuels, c'est aussi parce qu'il y a un environnement, une culture, une société de permissivité autour de tout un tas d'autres phénomènes, entre guillemets, plus petits, mais qui créent un climat propice à la prédation.
Ben, quoi qu'il arrive, pour moi, il y a du viol, enfin, ça peut être oral, dans le sens où c'est des violences, c'est des intrusions à l'intimité des personnes. Des agressions sont tout aussi traumatisantes parce que,
Ah oui,
quoi
non,
qu'il
la question
arrive.
n'est pas sur la réelle côté traumatique pour les victimes ou pour les survivantes. Hein. Je parle d'un point
Non,
de
dans
vue
la capacité de
du
parler, genre.
public, du grand public,
Oui.
pour qui le viol a été démonisé, diabolisé dès l'enfance, dans la représentation sociale, et tant mieux. Mais du coup, où quelque part, c'est tellement diabolisé que ça leur fait peur de juste y réfléchir 30 secondes, en fait. Ils n'ont juste clair. Pas envie d'en entendre parler. Tu vois, là, je sais déjà qu'il y a plein de gens, ce podcast, ils ne vont pas vouloir l'écouter à cause de ça. C'est bien dommage, parce qu'en réalité, la lumière est le meilleur désinfectant, hein. On a besoin d'en parler, on a besoin d'écouter. Mais je pense que voilà, c'est... Bon, alors, revenons justement, oui. Ce qui est intéressant, c'est que le premier cas de notre premier chapitre, on n'est pas couché. Oui. Là, pour le coup, on parlait justement d'une confrontation de d'une survivante de et justement, est-ce qu'on appelle victime ou survivante, Sandy Rousseau, mais d'une personne qui a été victime d'une agression sexuelle et d'une personne qui a été victime d'un viol, enfin, de répété et qui était un inceste.
Oui.
En plus, donc on est sur quelque chose de au niveau des tabous sociaux et de l'inconfort et du mal-être de la personne lambda qui entend parler de ça, on est au niveau nucléaire. Et donc moi je voudrais parler, on n'a pas le temps ici de parler parce qu'en plus on est sur un podcast sur la culture populaire, on n'a pas le temps malheureusement de parler des crimes et de ce que ça sous-entend et de la psychologie. Moi je voudrais vraiment parler de la façon dont la télé
traite.
Là, on a traité de ce qui s'est passé. Alors moi, je vais te donner mon contexte et ensuite, je vais te laisser la parole sur ton énervement à l'époque. Moi, mon contexte, c'est que j'en ai entendu parler sur Twitter où j'ai entendu des gens dire que, en gros, descendre Christine Angot. Dire que c'était des choses tout à fait terribles autour d'elle et sans rien savoir de ce qui s'était passé, de qui c'était, parce que moi, je suis complètement à la ramasse. Donc, j'avais entendu parler de Denis Baupin, qui est l'agresseur de Sandrine Rousseau, qui avait eu un scandale il y a quelques années. Je n'avais rien suivi, donc je ne savais pas qui était Rousseau, je ne savais pas qui était Angot. J'ai juste lu sur Twitter une série de tweets de plein de gens différents qui disaient que Angot avait martyrisé Rousseau et que c'était un scandale. Bon, j'ai ensuite cherché pendant 24 heures à avoir... je n'avais pas envie de regarder la scène et les extraits de l'émission parce que ça m'a perturbée. Donc j'ai voulu chercher un article qui décrivait ce qui s'était réellement passé.
D'accord.
Au-delà de dire « oui, c'est un scandale !» et de dire « ok, mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Comment ? Quoi ? Pourquoi vous dites ça ?» Le lundi, donc ça a été diffusé le samedi soir, le lundi, impossible de trouver des choses. Le mardi, les choses qui ont commencé à ressortir. Plusieurs des gens sur Twitter m'ont envoyé des liens et tout ça. Et ce que j'ai commencé à lire, il y avait notamment des articles sur Slate et un article sur Mademoiselle. Et ensuite, il y a Nouvelle Obs aussi... le blog Temps Réel qui a aussi écrit quelque chose qui décrivait assez bien. Et du coup, là, j'ai commencé à comprendre un truc assez pervers. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai compris... Parce que la façon dont c'était écrit, en fait, sur Twitter, ça donnait à penser que Christine Angot était totalement ignorante sur ces questions-là et du coup, avait maltraité Rousseau pour le buzz. C'est vraiment l'impression que ça donnait.
Ah, c'est, en effet, c'est problématique. Ouais,
voilà.
C'est ça.
Ensuite, ce que j'ai vu, je dis, ah, ok. En fait, clairement, elle aussi, dans un des articles, il avait écrit, donc les premiers articles, les premiers jours, je pense qu'il ne décrivait pas tout ce qui s'était passé, mais qu'il disait juste qu'il nous faisait... Donc j'ai compris qu'il y avait eu une engueulade sur le plateau, que cette engueulade avait été signalée par France Télévisions avant la diffusion. Donc ils ont fait le buzz dessus. Ils ont fait une partie de la promo sur le fait que, ah, vous allez voir, il y a une esclandre, mais on a coupé un passage parce que, par élégance, on savait que Christine... Et ce que je ne comprenais pas, c'est, alors attends, celle qui a pleuré, c'est l'invitée, mais celle qui a jeté ses papiers et qui s'est barrée, c'est la chroniqueuse. Donc je ne comprenais pas. Et dans un des articles qui disait ça, oui, elle est partie en disant, bah, on se débrouille. Donc j'avais l'impression qu'elle lui avait jeté, bah, faut se débrouiller quand on est violée, tant pis pour toi, quoi.
Ouais.
Et j'étais là, ok, donc elle est ok. Et ensuite, je réalise, dans un des articles, à la dernière, tu vois, genre au 9e, 10e paragraphe, il y a écrit d'ailleurs, en 2005, en parlant de son propre, de l'inceste dont elle avait été victime, elle avait elle-même dit quelque chose, blablabla. J'ai fait quoi ? Genre, tu sais, l'information que tu donnes au bout de deux pages d'article, je fais okay, quoi ? Et du coup, je me dis, ok, donc la nana, ce que j'ai compris, c'est que la nana, elle a un problème avec son histoire. Du coup.
Ouais.
Elle dit qu'il ne faut pas en parler parce qu'elle ne veut pas en parler. Et du coup, elle a tapé un scandale. Et alors ensuite, quand j'ai vu les vraies descriptions de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit avant le moment coupé et après, je n'ai pas du tout la même image. J'ai l'image du fait qu'ils ont une conversation difficile sur un sujet compliqué.
Compliqué.
Et que ça, elles ont été toutes les deux instrumentalisées, une le bourreau, l'autre la victime. Pour les biens pour les biens de du buzz.
Ouais.
Et apparemment, Christine Angot vient d'être écartée temporairement ou pas. On ne sait pas. Enfin, ils disent temporairement, mais on ne sait pas. On n'est pas couché. Donc, en plus, elle a été
double peine.
L'agneau sacrificiel.
Je suis complètement d'accord.
Et je trouve que c'est
terrible.
Épouvantable. Mais surtout, voilà, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que les gens, en gros, ont jugé sur Twitter qu'il y en avait une qui était méchante et l'autre qui était moins méchante parce qu'il y en a une qui criait et l'autre qui pleurait.
Oui.
Et ça en dit tellement long sur le côté vous ne comprenez pas comment fonctionne la psychologie d'une survivante.
Oui.
Et vous essayez d'assigner un comportement nécessaire et obligatoire à quelqu'un qui a vécu quelque chose de traumatique. Et ça, et là, tu te dis, putain, on a du temps de retard, quoi. Il faut faire quelque chose. Donc voilà, moi, ça, c'est la façon dont j'ai vécu le truc. J'ai un peu résumé en un coup parce que je voudrais qu'on parle de tous les autres sujets après.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, vas-y, toi, je te laisse la parole.
Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais en colère par rapport à Christine Angot parce qu'en effet, pour le coup, moi, c'est une auteure que je connais. J'avais vu cette émission de sur le plateau de Thierry Ardisson en 2005 que j'avais trouvé horrible.
Bah, explique du comment ce qui s'est passé en 2005.
Donc 2005,
Christine
Angot,
elle a écrit sur l'inceste dont elle a été victime, mais dans le cadre de la fiction.
Oui.
Donc, c'est un écrivain qui écrit de la fiction. Oui. C'est très important pour elle. Et elle a été reçue donc à la sortie d'un de ses livres. Donc vas-y.
Elle a été reçue dans le cadre donc de son livre, mais de la manière le choix des passages de Thierry Ardisson pour moi était et la réaction des invités sur le plateau déjà m'avait horrifiée parce que c'est des passages très détaillés d'une scène d'inceste et qui a été plusieurs fois reprise. Et ensuite, après, il y a eu des jeux de mots, notamment sur le fait d'un père qui demande donc à la fille dans cette fiction, dans le livre, de manger les clémentines sur son pénis. Et là, il y a un jeu, il y a un rire nerveux parce que je crois qu'il y avait une actrice, je ne sais plus c'était quelle Clémentine Célarié ou je ne sais plus, qui était présente. Bon, ça, c'est les émissions de Thierry Ardisson. J'ai un problème avec, quoi qu'il arrive, ce type de plateau pour parler à un moment quand même de sujets graves, que ce soit de la fiction ou non. La scène, pour moi, est poignante. Elle dit des choses et on ne peut pas rire de tout. En tout cas, pour moi, là, ce stade-là, c'était complètement plus que déplacé.
Bah, au-delà de ne pas pouvoir rire de tout, d'avoir quelqu'un, un auteur qui utilisé un truc de son passé qui est extrêmement douloureux et traumatique pour créer de la fiction et d'avoir un manque de respect absolu pour son trauma, pour son passé, pour ce que ça lui fait qu'on lise ces passages-là,
il vous passe
quoi par la tête, quoi.
Et moi, j'avais été assez admirative de Christine Angot parce qu'elle n'a pas pleuré, elle a vraiment pris sur elle. Je la trouvais forte. Après, elle est ce qu'elle est, mais je me dis, elle est courageuse. Waouh, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elle s'afflige ça. Moi, j'avais vu ça aussi un peu comme une sorte d'auto-flagellation parce qu'on sait aussi comment ça se passe sur ces plateaux-là. Mais c'est important qu'elle le fasse parce qu'elle veut, pour moi, elle était aussi dans une démonstration de montrer. De montrer ces conditions médiatiques de quand on parle, voilà ce qui se passe. Parce que par contre, elle a essayé de porter plainte dans son histoire personnelle et autres, elle n'a pas été entendue. Donc toute sa colère est remontée parce que c'est comme si elle voyait toute la naïveté et l'espoir d'une Rousseau. Et il y en a une qui n'est plus dans l'illusion, ne croit pas en ce système et trouve que la démarche donc, de Rousseau est inutile, on va dire, de la manière dont elle le fait, être ça peut-être naïf.
Bah justement, je suis pas sûre. Là, je crois qu'on assigne des trucs parce que vu le montage, vu à quel point ils ont coupé et monté des choses, je suis même pas sûre que ce soit exactement ça que Christine Angot essayait de dire. Hein.
Bah après, je trouve que c'est pas super bien exprimé dans le sens
catégorique. Je pense pas que c'était aussi catégorique.
Elle dit
que ça
se passe pas comme ça, ça se passe comme ça, on n'est pas entendu. Mais elle dit, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on fait rien, on se débrouille. En fait, c'est un peu ça, tout ça, c'est un peu le côté. Bon, ce que tu fais, ça. Bon, quand on dit on fait rien, on se débrouille, c'est quand même donc une.
Mais elle a dit on fait rien. J'ai l'impression qu'elle dit juste on se débrouille. Oui.
Non, elle dit on fait rien, c'est vraiment comme ça elle lui dit, elle se parle, en plus après elle se tutoie, elles ont l'air de. Elle lui dit mais Christine, alors qu'est-ce qu'on fait là? C'est vraiment deux victimes qui dit, moi, j'ai fait ce choix de faire l'assaut, de faire le livre, ce livre-là, de cette manière-là, parce que Christine Angot a aussi fait des livres, c'était son mode d'expression.
Donc et, voilà, donc, rappelons juste, Sandrine Rousseau a écrit un livre qui s'appelle
qui
Parler,
s'appelle Parler.
Elle s'est fait agresser par Denis Baupin, qui lui a touché les seins, attrapé contre un mur et tout, enfin voilà.
Forcé,
c'est pas, apparemment passer, pas allé jusqu'au crime sexuel. Mais c'est quand même allé assez loin pour qu'elle soit bien sûr traumatisée et qu'elle essaye de... Alors, elle a essayé de faire des choses en interne, puis finalement l'affaire est sortie par Mediapart, donc elle s'est retrouvée au départ involontairement comme public. Ouais. Et ensuite, elle a entre-temps créé une association qui s'appelle Parler et écrit un livre qui s'appelle Parler là-dessus. Il y a apparemment aussi dans Slate, il pose la question de l'affrontement de deux visions différentes et du fait que dans son livre... Parler, Sandrine Rousseau cite le cas d'Angot.
Tout à fait.
Et ne la traite pas, dit pas qu'elle est écrivain. Elle utilise un autre terme et ça a vexé.
Angot qui n'a pas fini le livre d'ailleurs.
Angot qui du coup n'a pas fini le livre de Rousseau. Donc voilà, donc apparemment en tout cas ça a créé, poussé le point où elles se sont, où Angot a quitté le plateau, l'émission s'est arrêtée pour une minute, ensuite elle est revenue et ensuite elles ont parlé beaucoup plus calmement.
Ouais.
Et ça, ça a été complètement passé sous silence.
C'est là où tous les montages, tout ça, il y a une responsabilité de la prod comme, le, comme des invités. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué pour le coup, dans, clairement sur le plateau, après, c'est ben, la modération de Ruquier, qu'il n'y avait pas. Bon, hein, que, allez-y. Lui, je pense qu'il pensait audience. Yann Moix qui laisse entendre que son style en gros d'écriture, que c'est pas assez détaillé, en gros que ça raconte rien, j'ai trouvé ça hyper déplacé.
Oui, c'est ça, en fait, bon, il voudrait que la scène d'agression sexuelle soit plus clairement détaillée pour qu'on puisse ressentir sa peur et le trauma.
Pas sa peur et le trauma, mais il y a des choses qu'il faut savoir que la victime a le droit déjà à sa pudeur. Il y a beaucoup, moi, j'ai lu beaucoup de livres, de récits, de victimes, et certaines font le choix, elles le disent dans le livre quand c'est des témoignages, je ne vais pas détailler parce que à un moment c'est trop dur hein, aussi pour elles ou à un moment ça, peut, ça, ça sert des trolls, des gens aussi qui lisent et peut-être qui se branlent sur ce genre de détails hein, on n'est pas à l'abri de... donc elles ne veulent pas alimenter non plus
mais
l'imaginaire,
tu m'as dit
on ne sait pas qui lisent.
Il y avait des forums comme ça, ou des
ouais,
femmes,
y a des forums,
enfin, j'ai des femmes. Des victimes,
des victimes
témoignaient et que souvent tu voyais qu'il y avait clairement des trolls qui étaient en train de poser des questions et de demander des détails, clairement pour des raisons
toxiques, enfin nocives, enfin pour. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient derrière leur écran en demandant ça, mais en tout cas, c'était pas, il n'y avait rien de constructif, c'était même pour moi du. Comment on pourrait dire ? Une manière de les agresser d'une autre manière, en fait, tu vois. Pourquoi les gens veulent... Parce que le problème de l'agression sexuelle ou de viol, surtout que tu es face 90% du temps à quelqu'un que tu connais, il y a déjà une sorte de pression de la situation et aussi de déterminer c'est ta parole contre la mienne. Mais en fait, c'est ta perception contre la mienne. Là, je trouve que ce qui manquait sur le plateau d'ONPC, donc d'On n'est pas couché, c'est la parole des hommes sur la force de proposition, l'empathie,
de
compassion, oui, voilà. Oui.
Et moi, ce qui me tue, c'est que, ok, sur le plateau,
pas
tu l'as pas fait parce que tu savais pas quoi dire, merde, c'était il y a 2 semaines.
Ouais, tu peux prendre une prise
moi,
de parole.
Moi, je suis désolée, alors peut-être que je l'ai raté, hein, mais. Il est
non,
où le communiqué de Ruquier
ouais.
Il est où le truc de Yann Moix? Il est où le Moix, moi, whatever
ouais.
Ils sont où les trucs des mecs qui se disent « Ouais, on se pose des questions ». En fait, c'est ça. C'est...
Ouais.
T'as l'impression que chaque fois que tu parles de questions, mais c'est vrai quand tu parles de questions féministes en général, il y a quand même une grande partie des hommes qui sont paralysés.
Ouais.
Et alors, je comprends qu'ils peuvent pas être paralysés pour des bonnes intentions. Et moi, j'ai envie de dire « On s'en fout de vos bonnes intentions. On a besoin... » Sachez que votre silence ne nous donne pas l'impression du respect, il nous donne l'impression de l'indifférence.
Et voire même d'une forme de complicité
oui,
à un moment.
Mais dans
que
certains,
c'est un problème
dans
qui doit
cas,
être réglé,
oui,
que comme
parle,
si on était tout seul.
Je parle particulièrement, tu vois, quand je discute de ça devant mon petit frère, par exemple.
D'accord.
Et qui dit rien, qui l'écoute. Et qui me dit non, mais j'écoute.
Oui.
sur tout un tas de sujets féministes, par exemple. Et je lui dis, bon, pour le coup, lui, il est horrifié. Hein. Depuis 3 jours, j'arrête pas de dire quoi, j'ai un truc sur Facebook, je lui lis, il est là, putain, mais les gens sont complets. Il dit, en fait, je comprends pas. Hier, il m'a dit, je pense que la différence, c'est que moi, depuis que je suis petit, entre moi et ma mère, on lui a tellement dit des trucs et expliqué des trucs que. En fait, il voit pas les femmes de la même façon que d'autres gens, en fait.
Oui.
Il se dit, c'est pas possible parce que vu moi comment je pense aux femmes, je comprends pas comment c'est possible.
On puisse penser, ouais.
Même des choses. Enfin, il parle vraiment de trucs d'action, de harcèlement et d'action entre guillemets légères qui sont extrêmement répandues. En fait, il me dit, je comprends pas comment c'est possible de penser comme ça. Et il dit, même moi, complimenter une fille sur son sourire, ça me met mal à l'aise. Donc, et c'est rigolo parce que il y a le côté parce que justement, il veut pas être intrusif.
Bah oui.
Mais malgré tout, il a quand même ce côté de pas vouloir prendre la parole quand je parle de ces sujets-là. Et du coup, tu as envie de dire à tous les mecs qui sont concernés, bah en fait, vous vous rendez pas compte à quel point on a l'impression de vivre cette situation de femme. Alors attention, hein, la question c'est que bien sûr, les victimes d'agression peuvent être des femmes et des hommes, y compris pour les viols. C'est pas les mêmes proportions, mais c'est pas la question. Mais ce qui se cache derrière toute cette conversation en ce moment sur le harcèlement, c'est quand même la façon dont on traite les femmes différemment des hommes dans la plupart des situations, voire la façon dont certains hommes traitent les hommes et les femmes dans des situations de pouvoir. Du coup, effectivement, c'est complètement lié à des questions de domination masculine, c'est complètement lié à des questions de féminisme, parce que c'est entremêlé, on ne peut pas les séparer. Et donc, en tant que femme, même quand tu n'as pas été victime, donc tu as toujours été une victime d'une forme même minime, je ne connais aucune nana qui n'a pas été touchée dans le métro, ou un homme qui s'est exposé devant elle, quelqu'un qui s'est masturbé sur elle dans un lieu public.
On le voit avec le MeToo, tous les témoignages.
Voilà, ça nous est tout arrivé. Et du coup, on est dans une situation en tant que nana où cette pression, on la ressent toute. Quel que soit notre parcours personnel, notre histoire personnelle. Et du coup, quand on parle de ces questions-là et d'avoir en face des hommes qui sont gênés ou respectueux, mais silencieux, pour nous, ça fait écho au fait que tout le monde s'en fout. Donc oui, c'est important juste de dire « je t'entends, je suis avec toi, je suis horrifiée ».
Et d'ailleurs, cette parole est importante. Cette parole est importante régulièrement, en fait. Parce que d'ailleurs, si c'est une majorité d'hommes qui est horrifiée, qui considère que ces comportements sont justement inacceptables, ils doivent se manifester. Parce que là le silence joue contre nous, contre eux aussi. Parce qu'à un moment, il y a un sentiment qu'on attaque la gente, la population masculine, alors que ce n'est pas le propos. Et là, c'est normal que, en tant que victime, que les femmes donc s'expriment. Mais je pense que et j'espère que la déferlante après, ça va être la parole d'hommes.
Je pense qu'ils ont besoin de temps. Pour se réajuster. Mais ce qui est sûr, soyons clairs.
Qu'il est important qu'en gros, il y ait la parole des hommes et qui prennent leur temps pour pouvoir s'exprimer.
Après, il faut savoir que moi, j'ai eu quelques conversations avec des mecs sur les réseaux sociaux ces derniers jours et que certains m'ont dit que voilà, ils ont été rabroués en essayant de poser des questions. Ça, il faut bien savoir, moi, en tant que féministe convaincue depuis un certain nombre d'années et notamment sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années, il y a des exemples, notamment aux États-Unis, assez marquants où si un mec ose dire « je viens de découvrir le féminisme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été con », il se fait insulter. Il se fait insulter par ceux qui disent « t'aurais dû le savoir, comment tu peux être aussi débile, machin », et de l'autre côté, par les gens qui disent « comment tu oses t'immiscer dans des questions qui ne te concernent pas, tu ne peux pas comprendre ». Et alors, je peux comprendre cette frustration et cette colère, sauf que ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement un terrain miné. Je veux dire, pendant les premiers... Donc voilà, parlons maintenant de Weinstein. Donc, alors, en gros, il y a deux articles qui sont sortis, un dans le New York Times jeudi 5 octobre, et un dans le New Yorker lundi, Donc mardi 10.
Oui.
Écrit par Ronan Farrow, le fils de Woody Allen, mais qui ne parle plus à son père depuis ouais. un certain nombre d'années, notamment à cause de sa sœur qui a accusé le père de viol. Voilà, bon, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire très compliquée parce que
ouais,
c'est une histoire, voilà, c'est une histoire compliquée dans les deux sens parce que voilà, la mère, leur mère est quelqu'un de compliqué et de problématique. Il y a vraiment des questions qui sont posées. Ce qui est sûr, c'est que il se trouve que Woody Allen, quelques jours plus tard, a malencontreusement pour lui dit que c'était quand même triste pour Harvey Weinstein ce qui lui arrivait. Et voilà. Du coup, donc, voilà, donc après, voilà, après j'ai lu. Et non, donc les deux articles sont sortis, ont cité des sources différentes dans les deux cas, mais qui en gros expliquaient qu'il y avait 30 ans d'abus sexuels. De harcèlement à des crimes sexuels de la part de Harvey Weinstein, les producteurs les indépendants les plus puissants, les plus célèbres des États-Unis. Donc, je ne vais pas refaire tout le truc parce que c'est compliqué, il y a plein d'articles sur le sujet, mais en gros, il faut savoir que tout l'essor du cinéma américain indépendant des années 90, on l'associe beaucoup à Weinstein, qui était le producteur de Michael Moore, le producteur de Tarantino, le producteur de, il me semble, à un moment, Woody Allen aussi. Donc il y a énormément de choses, de films qu'on a aimés, qu'on a, voilà, qui sont grâce à Weinstein. Il avait déjà la réputation, ça on le savait même nous, civils, d'être un bully, donc d'être quelqu'un qui était assez désagréable et qui gueulait, qui, voilà, qui faisait peur.
Apparemment, on voit bien dans la série Entourage d'ailleurs, je trouve.
Oui, enfin, bah
c'est
voilà.
Une parenthèse. Oui, oui.
Donc voilà, il y a ça. Et là, après, tout d'un coup, donc voilà, il y avait en fait tout un tas de gens victimes, de femmes victimes de tout un tas de trucs chelous. Et en fait, il s'est avéré ensuite que il y a eu de plus en plus de gens, de femmes célèbres qui ont témoigné. Voilà, il y a une liste assez impressionnante. On en est à 30. Certaines de viol, l'accuse de viol, certaines de tentatives, certaines de tentatives d'harcèlement, certaines d'harcèlement sexuel professionnel classique, si tu es ma maîtresse, je te donnerai un rôle, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Bon, pendant quelques jours, il ne s'est rien passé au niveau des médias, à part Amber Tamblyn et Rose McGowan. Rose McGowan qui apparemment est elle-même victime d'un viol, dont elle ne peut pas parler directement, même si elle en a entre-temps beaucoup mentionné. Pour la simple et bonne raison qu'elle fait partie des femmes qui ont accepté de signer un contrat contre de l'argent pour se taire, qui était en gros un des seuls choix qui leur était à leur disposition quand elle avait 21 ans et quand c'était la fin des années 90 et que tout le monde s'en foutait. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Et donc, au début, personne n'a parlé. Du coup, beaucoup de choses sur Internet, c'était « Ouais, pourquoi est-ce que les actrices qui ont bossé avec Weinstein ne parlent pas ? C'est une honte. » Donc, bien sûr, ils ont commencé énormément à troller Gwyneth Paltrow, parce que Gwyneth Paltrow, tout le monde adore la détester. Bon, il s'avère que Gwyneth Paltrow avait donné une interview exclusive au New York Times qui était sur le point de sortir, où elle a dit qu'elle avait elle-même été victime de tentatives et d'avances sexuelles de la part de Weinstein, et qu'à l'époque, elle a été protégée par son petit ami qui était Brad Pitt.
Tout à fait.
Voilà, et qu'ensuite elle a continué à travailler avec lui pendant des années et qu'elle s'est sentie horriblement mal de ça et culpabilisée et responsabilisée. Pareil pour Asia Argento, hein, qui s'est fait pour le coup.
Il l'a violé, il lui a fait
un cunnilingus forcé, tout simplement. Et ensuite, les années qui ont suivi, elle a couché avec lui sous pression, mais pas de façon non consensuelle, enfin de consensuelle non.
Non consentie, pas de façon consentie, mais avec
toute la dynamique de prise de pouvoir, d'abus de pouvoir psychologique qu'il avait sur elle. Et du coup, c'est aussi une raison qu'elle n'a pas parlé plus tôt, parce qu'elle savait que ce serait pas cru.
Bien sûr.
Vu qu'elle avait accepté après d'avoir eu des relations sexuelles avec lui depuis les années qui ont suivi. Sachant qu'elle a quand même mis la scène du viol dans du film qu'elle a réalisé en 2000 et que la première chose qui est arrivée, c'est des actrices qui sont allées voir et qui font « Ah, c'est Harvey Weinstein, il m'a fait pareil. »
Ouais, c'est dingue ça.
Donc voilà, donc ça c'est le truc. Donc toujours est-il que les femmes ont commencé du coup à parler et ensuite on dit « Pourquoi les hommes ne disent rien ? Quelle honte les hommes ne disent rien ?» Et des hommes ont commencé à parler et bingo, la plupart des hommes qui ont parlé se sont fait descendre.
Oui. Alors moi, j'ai pas trop suivi les hommes qui ont parlé qui se sont fait descendre,
bah,
en tout cas.
Bah, disons que pratiquement tous le sont fait descendre d'un point de vue de soit effectivement dans le cas de Ben Affleck, parce que quand il avait 25 ans, il a fait un certain nombre de conneries devant la caméra avec des meufs, des journalistes, des actrices, des machins. Donc voilà. Ensuite,
oui, bah, minimisons pas que je pense qu'ils ont été complices du silence et de l'omerta. Hein.
Oui, d'accord, mais la question c'est que tu peux pas dire, vous devez parler. Et une fois qu'il parle, comment t'oses parler et dire ça alors que ça ? Tu sais ce que je veux dire ?
Parce qu'ils parlent, mais ils oublient de. Ils auraient pu prendre la parole et dire, et moi-même, j'ai contribué à ça, j'ai été con dans ma vie et tout. Il faut aussi faire de l'introspection, et je pense que c'est ça qui a énervé les gens, c'est parler en condamnant l'autre sans profiter eux-mêmes de dénoncer soit des pratiques qu'ils ont vues ou qu'ils ont peut-être eues parce qu'ils sont dans une industrie.
Oui, mais sauf que le problème, c'est que je suis pas sûre qu'ils aient les, je suis pas sûre qu'ils en aient encore conscience. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont été appelés directement en disant pourquoi tu n'as rien dit encore, tu dois parler aujourd'hui. Du coup, il a parlé immédiatement en disant moi je suis innocent ni quoi que ce soit, mais en disant effectivement l'étendue du truc est totalement terrifiante et c'est horrible et j'arrive pas à croire que c'est vrai. Et de toute façon, il dit comment tu oses, toi aussi tu es un prédateur. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a une espèce de truc, si tu lis les statements et tout, il y a un moment de lose-lose, quoi. Que quoi qu'il fasse de toute façon. Et c'est compréhensible parce qu'on a envie d'être énervé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à.
Bah là, on est dans un contexte où je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a d'autres histoires. C'est pour ça que je dis c'est que l'arbre qui cache la forêt.
Sûr.
Et que à partir du moment, il y a aussi eu des femmes complices. Hein. De toute façon, ça va être un peu.
Et c'est ce qui est dans les journaux. Ma question, c'est juste comment est-ce qu'on peut ouvrir une conversation
la parole.
Si dès le début de la conversation. On ferme la conversation. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, parce qu'il y a certains qui ont bien pris la parole, à mon goût, tu vois, qui avaient une parole qui prenait sens. Alors là, je n'ai pas le nom de cet acteur qui, tout simplement, dit « Nous devons soutenir clairement nos consœurs. On doit être... »
Mais il l'a dit, ça aussi, hein, Ben Affleck, hein, et Matt Damon aussi. Hein, ils se sont quand même fait des seins.
Mais en fait, ils ont oublié... Parce qu'il y en a qui l'ont dit, qui n'avaient pas apparemment particulièrement travaillé avec Weinstein, qui n'avaient pas pris de...
Oui, mais du coup, c'est plus facile pour eux de le dire. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais juste même ton comportement, c'est juste une petite analyse. En fait, c'est un processus d'identification à... Est-ce que de dire quelque chose par rapport à l'industrie ? Donc peut-être, eux, trouver une... C'est du storytelling à un moment... Toi, c'est quoi ton témoignage par rapport
à
autre chose qu'avait Einstein ? Est-ce que tu n'as pas été influencé par cette culture d'Hollywood ? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu comptes faire ou,
je suis d'accord, sauf qu'on attend de personnes qui n'ont clairement pas l'éducation sur ces sujets et la compréhension de ces sujets-là, une réaction politiquement, socialement, éthiquement parfaite à chaud, et le fait qu'ils ne n'en soient pas capables. On les tu vois, on leur demande, il y a pas une question de, en fait il y a pas de d'ouverture, et je pense, enfin je le dis parce que je pense que c'est le problème avec les civils qu'on a ici aussi. Il y a pas d'ouverture, de possibilité d'avancer, d'éduquer, de dire ok, donc ça c'est les questions que tu te poses, voilà, moi c'est ce que je veux te dire, quand tu dis ça je comprends, mais j'aimerais bien que tu dises ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas cette démarche là qui apparemment est une démarche pour le coup que Amber Tamblyn a fait avec Quentin Tarantino, parce que Quentin Tarantino qui n'a encore rien dit.
Oui.
C'est exprimé à travers Amber Tamblyn, donc elle pour le coup était une des premières à réagir et vraiment une des voix féministes de Hollywood très forte. Et en gros, elle a annoncé hier soir, donc au bout de quelques jours, elle a dit voilà, hier soir j'ai dîné très longuement avec mon ami Quentin Tarantino, nous avons parlé de la situation et il m'a demandé de vous transmettre ce message. Et le message c'était, je suis horrifiée de réaliser ce qui s'est passé autour de mon ami de 25 ans, Harvey Weinstein. Et je suis en train d'essayer de recomposer, de reconstituer mes souvenirs, mon opinion, ce que j'en pense. Enfin, en gros, je suis en train d'essayer de voir clair. Et je vais prendre la parole, mais là, je ne suis pas encore capable de le faire correctement. Et je trouve ça très honnête. Parce que t'imagines si t'apprends que quelqu'un dont t'es proche depuis 25 ans a tout un tas d'agissements que soit t'avais entendu parler mais tu les as pas pris au sérieux, soit t'en avais aucune idée, soit, enfin tu vois, j'en sais rien.
Moi je te trouve
je trouve ça impossible d'avoir une réaction immédiate. Alors, je ne dis pas que ce ne serait pas préférable pour nous, autres, qui sommes à l'extérieur de sa tête. Je pense qu'en réalité, je ne suis pas sûre que les êtres humains puissent donner des réactions positives, possibles, enfin bien, aussi rapidement. Et que du coup, ça appelle à faire des faux statements, tu vois, écrits par des publicistes.
Oui, mais tu peux faire en premier, pour dire « je reviendrai vers vous ». Parce qu'il faut juste avertir, j'ai entendu, je veux m'exprimer, mais j'ai besoin de temps.
Ben, c'est ce qu'il a fait.
Ça, on peut l'entendre.
Non, mais c'est ce qu'il a fait.
Oui, donc il faut juste le mentionner. Et ensuite, moi, j'attends avec impatience tous ceux qui ont pris le temps de se poser la question. Parce qu'à mon avis, il y a plein d'histoires, il y a déjà plein de comportements. En fait, ça soulève, c'est la surprise qui fait que personne ne s'attendait à ce que ça s'écroule comme ça, parce qu'il y a une participation collective.
Ah, mais bien
donc
sûr.
C'est toute une...
Et puis surtout, je pense qu'il y a l'idée qu'il faut arrêter de se... Enfin, tu vois, un des trucs qui me dérange, c'est que la façon dont ils ont tous l'impression de dire que c'est lui le monstre.
Bah oui, c'est ça.
Alors non, que c'était que lui le monstre, quelque part, effectivement. Je veux dire, effectivement, tu peux te poser la question quand ils disent « Mais comment c'est possible que personne n'ait rien fait? Comment c'est possible que ça ait duré pendant 30 ans ?» Bah, effectivement, c'était un monstre. Ce serait hyper bizarre. Sauf que c'est pas un monstre.
Non, ça a duré parce que c'est une pratique courante
c'est
à Hollywood.
C'est une pratique courante partout.
Cinéma et partout. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que même, pourquoi ça a cette empreinte-là, ça, cet impact-là, pardon, c'est aussi que moi, quand j'ai commencé dans cette industrie, on m'a dit, oulala, tu vas dans l'industrie des requins, faut coucher, faut ci, faut ça. Donc déjà, ça, c'est dans la culture générale, c'est comme ça que ça se passe dans notre milieu. Donc à partir du moment où tu commences ces métiers-là, ou parfois même, on te fait comprendre, ouais, mais toi, tu n'avances pas parce que tu ne fais pas telle chose, en tant que femme. Hein. Moi, on me l'a clairement dit ou fait comprendre, voire après, on te dit, tu es utopiste, t'es naïve, tu es naïf, voilà. Mais le nombre de fois, on te dit, va voir tel producteur, et puis il aime bien les blacks, ou quand tu vas à Cannes, on te prend avant tout pour une actrice.
Je précise que tu es une femme noire, juste parce que les gens qui t'entendent ne savent pas. Tu dis pas ça comme ça.
Tout d'un coup, je suis devenue pendant le podcast. Oui, non, mais... Donc voilà, ça c'est en tant que femme, mais après en tant que non. Mais moi, j'ai commencé mon premier film en tant que chef-op, j'étais clairement harcelée par le réalisateur. En plus, il ressemblait à Quentin Tarantino, je trouve, de tête. et même par des membres du cast. Et en plus, parce que j'étais la bleue, je débarquais, j'étais la Frenchie, mais j'ai eu droit à tout. C'était traumatisant. D'ailleurs, je crois que ça m'a un peu découragée, même avec du recul, un peu
le fait d'être chef-op.
Dans le fait d'être chef-op, c'est-à-dire, moi, je me suis mise dans une position clairement de technicienne, en me disant, je pensais que c'était inconsciemment ou consciemment, je me dis, je veux être à des endroits derrière la caméra, tranquille, où tu ne seras pas jugée pour ton physique ou autre, etc. etc. Donc, au final, il n'y a pas de planque. Dans mon parcours, j'ai rencontré des jeunes producteurs, les nouvelles générations, qui font parfois des choix de carrière parce qu'ils se disent, je vais pécho plus facilement, voire je vais avoir ce type de pratique, qui disent très clairement dans la musique, dans tous les secteurs, hein, mais on parle du secteur culturel que je connais bien, c'est des pratiques courantes. Des producteurs, pour les chanteuses, pour les tout ça, c'est des promesses, c'est presque accepté, voire maintenant c'est tellement dans la tête des gens que hommes comme femmes, celles qui progressent de par leur talent, il y a quand même la suspicion de est-ce qu'elle n'a pas couché pour aller plus vite ou autre ou quoi, et ça c'est des propos qui vont venir d'hommes comme de femmes. Donc pour revenir pour le silence de l'entourage de Weinstein et de tout Hollywood, etc., c'est en vérité parce qu'on pourrait reprendre maintenant toutes les interviews de tout le monde, toutes les promos et tout ça, où il y a eu clairement la culture du viol, que ce soit dans les films, que dans les promos, même d'un Tarantino, hein, si on reprend 2-3 promos, la manière dont il danse ou il s'exprime sur le choix de 2-3 actrices et autres, tout d'un coup, tout peut être perçu d'une autre manière. D'une certaine manière, on va dire. Donc, ça peut les faire flipper déjà, eux, à se prononcer, parce qu'il est évident qu'ils ont dû participer un tout. Comme on, moi, je considère que j'ai été complice de ça aussi. Hein, tu vois, moi, j'ai travaillé dans le clip, etc. On a été complice de. J'ai vu clairement des jeunes filles, je pense, qui ont passé des castings humiliants, qui n'avaient pas raison d'être et on tourne le visage. Alors moi, je me révoltais ou quoi, j'étais pas entendue. Et puis après, tu penses à ton job, tu te dis, je dois avancer. Et puis même parfois, tu commences à te dire, bon, les filles, pourquoi vous venez là, quoi, tu vois, vous voyez pas que, c'est des, que vous êtes des proies et c'est des prédateurs. Donc c'est très particulier. C'est très particulier
du coup,
parce
moi,
qu'on peut.
Ma question, c'est justement, on revient à cette idée de la parole. Oui. C'est, en même temps, ça s'appelle parlons pop et parlons bien.
Ouais.
je suis un peu obsédée. C'est uniquement pour justifier la quantité de mots que je débite. Donc là, je nous dirige vers le chapitre MeToo. Donc le hashtag. Donc il y a un hashtag en France qui est arrivé qui est balance ton porc, qui moi me pose énormément de problèmes, pour la simple et bonne raison que je n'aime pas l'idée qu'on caractérise les prédateurs, mais aussi tous les prédateurs inconscients. Parce qu'il faut bien savoir, le nerf de la guerre, c'est qu'il y a tout un tas de mecs qui font tout un tas de trucs et qui n'ont pas l'impression qu'il y a un problème, et ça fait chier.
Ouais.
Si on dit porc, ça sous-entend, ça caractérise un certain type de mec.
C'est clair.
Et or, le problème, il n'est pas chez un certain type de mec. Le problème, il est beaucoup plus généralisé que ça, et il n'est pas d'ailleurs concentré sur les mecs. Et la raison pour laquelle je veux dire ça, c'est parce que donc, le hashtag MeToo, qui est donc un truc qui date d'il y a plusieurs années, par une activiste nord-américaine dont je retrouverai le nom, et qui a été relancée par Alyssa Milano, enfin en tout cas Alyssa Milano a proposé de l'utiliser le week-end dernier, et ça a créé une déferlante du coup partout sur Internet. Ce hashtag a poussé tout un tas de femmes et quelques hommes aussi à parler du fait qu'elles aussi, elles avaient été. L'idée, c'est ça, c'est si toutes les personnes, le hashtag disait, si toutes les personnes qui ont été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle mettaient ce hashtag MeToo, moi aussi, sur leur profil de réseaux sociaux, les gens pourraient avoir l'ampleur et l'envergure de ce problème sociétal.
Ouais.
Donc ça, c'est le truc de base. Du coup, ça a entraîné tout un tas de choses, donc la lecture de tout un tas de témoignages et tout, mais surtout, moi, ça m'a entraîné à avoir des débats, discussions, conversations sur Facebook et Twitter, mais surtout sur Facebook, suite à ces témoignages. Les conversations que j'ai eues sur Facebook ces derniers jours, pour faire bref, ont été extrêmement dérangeante. J'ai pas que eu des conversations dérangeantes. J'ai peu de conversations qui sont sur mon profil à moi. Il s'est passé deux choses. J'ai écrit MeToo. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que j'ai mis très longtemps à écrire MeToo. J'ai mis très longtemps à écrire MeToo parce que ma première réaction, ça a été je ne suis pas une victime, je n'ai jamais été victime. Et tout d'un coup, le fait de le fait que un mec se soit masturbé devant moi dans le métro quand j'avais 12 ans, et le fait qu'un mec se soit masturbé contre ma jambe dans le métro quand j'avais 35 ans, sont en réalité des actes qui me font faire partie de cette merveilleuse catégorie MeToo. J'avais l'impression, et c'est rigolo parce que j'avais l'impression que je n'avais pas la légitimité de le dire pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas usurper quelque chose de difficile et de compliqué. Je voulais pas usurper la compassion qu'on peut donner à des vraies victimes. C'est vraiment comme ça que j'y ai réfléchi. Et tout d'un coup, enfin, j'y avais pas justement réfléchi, c'était instinctif. D'un coup, j'y ai réfléchi et j'ai fait non. Le principe même, c'est de dire que tout ça, quel que soit le degré, c'est pas acceptable. Et donc, j'ai écrit MeToo. Et ensuite, j'ai quand même, dans les commentaires de plus bas, j'ai quand même précisé ce fait que moi, j'étais entre guillemets chanceuse. Voilà, j'avais pas eu d'expérience qui m'avait traumatisée au-delà de quelque chose de ce que j'appellerais anecdotique, mais même ça m'a quand même permis de prendre conscience de ce que c'était. Mais tout un tas, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai posté un tableau qui tient à préciser quel type d'action peuvent être considérées, enfin un type d'action peut être considéré de la drague, et ensuite tout le reste, ça peut être considéré c'est du harcèlement, puis ensuite d'autres choses sont de l'agression. Et le nombre de gens qui sont venus commenter sous ce tableau et sous les autres personnes que je connais qui ont posté ce tableau pour expliquer que, là, quand même, c'était exagéré, parce que quand même, c'est pas grave si on fait ci et si on fait ça, ça m'a horrifiée. C'est-à-dire que, quand même, les gens passent plus de temps à ergoter sur ce qu'on pourrait penser, sur à quel point on pourrait dépasser les bornes en qualifiant quelque chose de harcèlement ou d'agression, plutôt qu'à s'inquiéter de l'épidémie sociale qu'il y a.
C'est clair. Mmh.
Donc voilà, donc ça c'est mon... C'était comme ça que je voulais entrer dans le... en matière. Toi, ce hashtag MeToo, déjà, qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que t'en as vu? Enfin,
J'ai commencé avec le balance ton porc. J'aimais pas l'expression, j'avoue. Hein. Tu l'as très bien dit.
Je trouvais qu'il y avait une caractérisation. C'est une façon aussi pour plein de mecs de dire, moi, je sais que je suis pas un porc, donc ça me concerne pas.
Exactement, tout à fait. Moi, j'avais envie de parler des petits blonds à lunettes minces, on va dire, voilà, des caractéristiques où les gens partent du principe que parce qu'ils sont bien sur eux, voire mignons ou autres, eh ben, ce ne sont pas des prédateurs, ça peut pas être des auteurs de viol, puisqu'ils n'ont apparemment pas de problème à séduire des femmes. Mais ça sera des points sur lesquels il faudra à un moment revenir. Donc pour moi, je l'ai très vite enlevé, le balance ton porc de mon profil, dans le sens où je trouvais, j'aimais pas le terme, et que le MeToo me correspondait plus. Ensuite, j'ai pas eu, j'avoue, le courage de faire comme certaines personnes de mon entourage, de citer les moments, ça met les anecdotes, en fait. Je le ferai peut-être, mais à partir du moment où je suis arrivée au nombre de 17, il faut savoir que j'ai 40 ans, hein, donc ça part de l'enfance à jusqu'à l'année dernière, un peu la dernière, on va dire, agression. J'ai eu mal pour moi, je ne saurais pas le dire autrement. J'ai été overwhelmed, comme on dit. C'est, en fait, entre les 5 jours, du coup, tu penses à tout ça, et ben, ça a été difficile. Donc, j'ai juste mis le MeToo. Mais après, voilà, ça m'a motivée, en tout cas, à en faire une thématique sur laquelle je reviendrai avec de la proposition, on va dire. Et comment moi aujourd'hui, je overcome, comment je dépasse ces aspects-là, mais comment j'ai envie de participer à la co-création d'un nouvel environnement pour les femmes. Et aussi parce que j'ai un fils de 8 ans et ça me préoccupe juste tous les jours, ça m'obsède qu'il ne soit pas demain cette personne-là. Et donc ça commence par l'éducation. Pour moi, j'aurais bien fait un hashtag. Éduquons-nous mutuellement, mais éduque ton fils. Et ça, c'est éduque ton fils, ça aussi un appel à la société. Hein. C'est pas qu'au mère,
alors, au père. Justement, mais, je veux revenir sur ce truc de éduque ton fils. Donc, alors, moi je suis entourée de deux problématiques générales dans mon féminisme en ligne, qui est je me considère comme une féministe enragée. Or, en réalité, j'ai découvert et j'ai commencé à écrire dessus. Il y a quelques semaines, pour un sujet radicalement différent, qui est le sujet de Joss Whedon, qui, pour le coup, on est sur un mec qui est adultère et qui a été littéralement qualifié d'abuseur de femmes par certaines personnes sur Internet. Ce qui me pose souci, parce que j'ai l'impression que c'est des choses où il faut vraiment savoir de quoi on parle.
Tu peux le repréciser? Qui est Josh Whedon?
Josh Whedon, non, pas pour les gens qui écoutent ce podcast. Donc effectivement, si vous n'écoutez pas, si c'est la première fois que vous l'écoutez, Josh Whedon, c'est le créateur de Buffy. Il se trouve que son ex-femme a écrit une lettre ouverte l'été dernier en disant « Il m'a trompée, donc ce n'est pas un vrai féministe », ce qui est quelque chose, je ne veux pas rentrer dans la controverse, mais pour cette raison-là, il y a eu tout un tas de choses qui ont été écrites sur « Ouais, c'est un faux féministe, sinon ça ne peut pas être un féministe parce que c'est un homme, blablabla. » Et je me suis retrouvée à écrire sur ma situation de féministe, où j'ai l'impression que il y a une époque où j'étais Don Quichotte et que je passais mon temps à parler des moulins et que les gens disaient mais c'est que des moulins, je dis mais non c'est grave ces moulins, et qu'entre temps je suis Sancho Panza qui est là mais arrêtez de délirer, c'est que des moulins. Parce qu'il y a des cas où je suis pas d'accord avec du radicalisme, voilà, parce que l'action radicale ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand on confond de quoi on parle.
Oui, donc, moi je dirais plus c'est la confusion, mais c'est pas de la radicalisation. Je pense que non, c'est mais une
parle
perception qui est tronquée.
De termes trop radicaux qui sont utilisés pour des situations qui ne m'aident pas.
D'accord.
Et du coup ça m'énerve. Et là c'est
oui,
vrai que là tu vois ce que j'ai dit sur Ben Affleck et Tarantino et compagnie. Il y a vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise quand on passe de la responsabilisation nécessaire et l'appel à agir important à de la crucifixion en phrase, en disant, de toute façon, ça a toujours été un enfoiré. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et là, je suis désolée, mais c'est vrai pour Weinstein, mais si on commence à utiliser ça pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation, on n'a plus aucune mesure. Et le principe de la mentalité de la foule, de la meute, ça me dérange, quel que soit le sujet. Même si c'est une cause que je soutiens. Et du coup, d'un côté, il y a ça, qui n'est pas vraiment quelque chose que j'ai ressenti énormément, ou même pas du tout en France ces derniers temps, un petit peu. Des fois, justement, le terme balance ton porc donne un peu cet esprit-là, je trouve. Et de l'autre côté, tu as cette espèce de foule de gens qui sont des femmes et des hommes, il faut bien le préciser, qui passent leur temps à minimiser, à excuser, à dédouaner. Ah, je te dis, jure, tu expliques un truc grave et leur seul commentaire en dessous, les seuls gens y commentent uniquement pour dire « Ah, mais quand même, une fois, il y a eu une exception.
»
Et à chaque fois, et surtout, tu as l'impression, mais c'est rigolo, parce que tu ne peux pas parler de viol, tu ne peux pas parler d'agression sexuelle, tu ne peux pas parler de harcèlement sans que un des premiers réflexes de la personne en face soit « Oui, mais des fois, il y a des accusations à tort. » C'est presque tout à immédiat. Fait. Or, on le sait, c'est moins d'1% des cas. Donc, moi, j'accepte que cet argument soit présent avec la même proportion que sa présence, que la réalité. Donc, si 1% des fois où tu parles de viol, quelqu'un pose la question des accusations à tort, ce serait bien. C'est la même chose pour l'autre chose qui arrive presque immédiatement, c'est de dire « Oui, mais tu sais, il y a des hommes aussi qui sont victimes de viol. » Alors déjà, dans plein de situations, tu n'as absolument pas dit que ce n'était pas le cas. Il y a plein de situations où tu parles les violences sexuelles, les crimes sexuels, les personnes disent « Mais tu sais, il y a des hommes aussi qui sont victimes. » Et tu es là, à aucun moment, j'ai dit les femmes. J'ai bien parlé de victimes, donc j'ai pas précisé. Ce que j'entends, c'est une habitude sociale faite, utilisée par les hommes et les femmes, de mettre l'homme au cœur de la situation. On est tellement habitué à ce que la norme, le sujet norme, ce soit l'homme et pas la femme, que les gens se transposent immédiatement dans le point de vue de l'homme. Donc l'homme, c'est un innocent qui va être accusé à tort, ou c'est une victime. Et moi, ce que j'essaie de dire, et je me suis pris la tête avec plusieurs personnes, j'ai pris des photos de toutes les conversations Facebook, et je vais les mettre quelque part, parce que je vais les conserver, et avec notamment des femmes, où j'essaie de leur dire, est-ce qu'on peut se concentrer 2 secondes sur l'expérience féminine et d'imaginer ce que c'est, et surtout, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vraiment vous croyez qu'il faut avoir une petite conversation à 12 commentaires chacun pour parler, ergoter sur le petit cas où peut-être un type a voulu draguer et du coup il n'a pas compris, mais que la nana a pu le même prendre, et alors qu'on n'a pas parlé des victimes, comme si c'était le truc le plus qui risquait le plus d'arriver. Or, soyons clairs, dans la plupart des cas, c'est pas vrai que ce qui risque le plus d'arriver, c'est un pauvre type qui va être accusé à tort. Parce que ça, c'est un truc qui a toujours existé dans la fiction. Ça, c'est un truc qui existe dans l'esprit des gens. Mais dans la réalité, le mec dont la vie a été réellement ruinée par ça, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, parce qu'en plus, la fiction a peut-être même une tendance à traiter les exceptions. Et ce qui fait que ça change la proportion dans la vision collective. Et c'est en ça que je disais que la fiction est vraiment importante dans son traitement de remettre cet équilibre-là, de rééduquer, parce qu'en vérité, même en termes judiciaires et autres, on a cette culture de la justice par la télévision. Et les gens, je crois qu'il y a une fuite à aller chercher le moment où cette perception, on va dire, masculine, comme tu dis, comme ceux du FN qui ont sorti un hashtag balance la pétasse, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut revenir sur un vrai problème de société. La confusion est tellement énorme que sortir un hashtag pareil donne vraiment la mesure de où on est.
Le monde.
Tout le monde, voilà. Moi, c'est ça, en fait, qui ressort de ces hashtags. Et c'est là où je les trouve bien importants, parce qu'on voit, on comprend toute la confusion, comme tu le disais très bien, quand on voit les commentaires et autres. Et on se rend compte qu'il y a besoin d'une... Moi, j'aime le terme éducation, introspection des hommes,
et des femmes. Solutions. Mais non, mais ce que je dis, ce qui est hallucinant, c'est
les femmes. Et des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes.
C'est les femmes, ce qui est hallucinant. Je dis c'est hallucinant parce qu'il est probable que ça leur soit arrivé dans leur vie. Et en même temps, mon petit frère a dit quelque chose de très juste hier. Mon petit frère a dit, Si tu as grandi à Paris, que tu t'es déjà fait racketter dans ta vie, tu dois comprendre le trauma.
Ouais.
Tu dois très bien pouvoir t'imaginer te mettre à la place des femmes.
C'est bien fort.
Parce que c'est exactement la même chose. Tu es dit, moi, il est boulanger, il est pâtissier, mais il travaille dans des boulangeries. Il disait, moi, le matin, avant 6 heures du matin, les gens qui me faisaient chier dans la rue et qui voulaient me parler alors que j'étais avec mon Walkman et que j'avais pas envie de. Voilà, et tout, et que tu sais jamais si c'est un type qui est bourré, c'est un truc. Et moi, j'ai une carrière qui fait que je peux me défendre. Et malgré tout, je vois très bien ce truc où tu vois les gens arriver dehors, tu vois un groupe de mecs et tu dis oh putain, ils vont me faire chier, pitié, ne me parlez pas, ne me parlez pas, ne me parlez pas.
C'est un très bon exemple.
Et donc il est capable de le ressentir, donc il est capable de le comprendre. Donc en réalité, plein de gens devraient être capables de le comprendre. Et c'est hallucinant que ce soit pas le cas. Ma question, du coup, c'est parce qu'on parle déjà depuis plus d'une heure et il va falloir qu'on s'arrête bientôt. Ma question, c'est comment aménager des espaces pour que tous ces gens, que ce soit les hommes comme les femmes, mais notamment les hommes qui sont encore plus, j'ai envie de dire, en dehors de ce sujet, pour les pousser à nous entendre, à se poser des questions, à parler avec nous. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas les exclure de la conversation, parce qu'on a déjà besoin de leur parole. Mais aussi, ma question, c'est... Ma vraie question que je me pose, et je pense que c'est une question qui reste ouverte, c'est comment parler aux gens en leur, les poussant et les forçant à remettre en question leurs préjugés sans leurs qu'ils préjugés. Se sentent attaqués. Parce que moi, j'ai quand même eu des...
C'est par l'écoute. T'as raison, c'est l'écoute. Parce que moi, j'ai vu des personnes qui ne connaissent pas du tout mon histoire, des hommes, beaucoup d'hommes, qui se sont confiés sur la confusion ou des situations où pour moi, en fin de discussion, je leur ai dit « Je suis désolée, tu as été complice d'un viol collectif. » Mais pour eux, c'était confus. C'est quand même... Alors moi, au départ, quelques années plus tôt, j'aurais dit « En quoi c'est confus ? » Je les aurais envoyés bouler... Mais vraiment, genre, et pourquoi tu me parles de ça? Et il va te dénoncer à la police. Mais ce qui est confus, c'est une fille qui veut bien coucher avec un gars, et après le gars il lui dit mais mes copains aussi, et elle dit non, et les copains ils viennent quand même. Et là tu dis, mais là déjà, vous vous rendez compte, pour vous c'est libre service, c'est pas une bouteille où à un moment tu dis mais je peux boire aussi dans la bouteille. Et j'étais tellement traumatisée par ces récits, ces témoignages-là, j'ai été à l'écoute, hein, parce que je me dis, est-ce qu'il est vraiment en train de raconter ce qu'il est en train de raconter ? Je me dis, si je me braque, il ne va pas aller au bout, et moi, je ne saurais pas, je n'aurais pas cette information. Donc, c'est l'écoute. Certains ont l'impression de sortir glorieux quand ils n'ont pas abusé d'une fille qui était bourrée, en mini-jupe, allongée sur un canapé. Beaucoup de gens ils disent, oh, t'es con, t'y es pas allé. Donc il y a de vraies problématiques de des gens qui voient ça comme une opportunité, un rapport de proie de prédateur qui est affirmé, et des femmes qui après peuvent culpabiliser d'avoir été en faiblesse, d'avoir été dans des tenues qui dans la société on considère que c'est des appels au viol ou autre. Il y a une confusion sur la réalité du viol, qui est donc 90% des cas, c'est des gens que tu connais. Donc, il y a un rapport d'abord de confiance qui fait que tu te retrouves à peut-être même suivre ton agresseur ou ton violeur, sans savoir ce qu'il va avoir derrière. Ou la pression qu'il met sur toi est tellement forte que c'est de par votre passif, parce que vous connaissez qu'il y a... après, difficulté à parler, parce qu'avant, il y a peut-être eu amitié, sympathie ou autre, voire flirt. Et donc ça, c'est des vraies questions, des nuances qu'il va falloir aborder.
Parce que là, on est quand même en train de parler, et c'est important, parce que c'est extrêmement propagé, de crimes sexuels. Comme on l'a vu ces derniers temps, il y a tout un tas de degrés qui, à mon avis, contribuent à la propagation des crimes sexuels, mais qui ne sont pas des crimes sexuels. Et en gros, je pense qu'il y a un énorme pourcentage d'hommes qui ont fait ou dit des choses
qui
dépassent les limites, mais qui ne, en aucun cas se retrouvaient face à la... Enfin, ont commis un crime sexuel. Et donc, dans ce cas-là, la question, c'est...
Une agression, du coup.
Oui, voilà. Peut-être. Et donc, l'agression. Même pas d'agression. Tu vois, qui sont avant l'agression, qui sont dans du harcèlement.
Avant l'harcèlement,
où ils
n'ont
absolument pas l'intention. Ils n'ont pas l'impression, pas l'intention, pas l'agression. Moi, j'ai envie de parler à tous ces hommes-là aussi. Et toutes ces femmes, femmes qui subissent ça ou qui en sont témoins, mais qui ne prennent pas ça au sérieux, parce qu'on est habitué à considérer que c'est normal. Et la question, c'est comment tu parles à tous ces gens-là, parce qu'en réalité, plus le signal arrive tôt, plus tu réalises tôt, attends, mais en fait, cette blague-là, ah, mais en fait, ce regard-là, ah, mais en fait, ce geste-là, il est déjà problématique, plus tu désamorces des tonnes de situations. Plus tu crées des habitudes chez des gens qui vont ensuite se propager sur les autres gens qu'ils connaissent, sur leur famille, sur d'autres situations. Tu vois ce que je veux dire ?
Complètement.
C'est le principe du vaccin.
Mais
et du coup, ensuite, comment est-ce qu'on parle de ça ? Parce que moi, je me retrouve avec des gens sur Facebook, parfois bien intentionnés, qui, j'ai essayé de façon extrêmement pédagogique et non attaquante en disant « Je comprends ce que tu veux dire, cependant, je me dois, sans vouloir t'attaquer toi personnellement, de pointer ce qui est problématique dans la phrase que tu viens d'écrire. » Tu vois, genre littéralement, et j'écris ce truc, et la nana qui quand même me répond en m'insultant, en me disant « Non mais ça va, dis tout de suite que je suis pour les agresseurs, non mais ça va, non mais je rêve, de toute façon, ton commentaire n'a aucune valeur, parce que vu que tu as décidé que j'étais comme ça et que tu me demandes à moi de faire une introspection, alors que là, c'est pas du tout ce que je lui ai écrit. » Et du coup, comment tu fais ? Comment tu fais pour parler de ça sans que les... En fait, et du coup, moi, j'ai envie de dire la chose...
Déjà, il faut parler.
Voilà, c'est ça. Moi, je pense que le truc de base, pour revenir sur le bouquin de Sandrine Rousseau, la boucle bouquée... Enfin, on va terminer sur toi, en fait, mais... il faut parler, mais du coup, l'écoute... Donc, notre écoute, elle est importante aussi, parce qu'on a besoin de comprendre comment ça fonctionne dans la tête des gens, même si on est là, mais je vais m'arracher les cheveux. Mais je pense qu'il est très important de voir que je... mon diagnostic, c'est qu'à la base de tout ça, il y a le fait de ne pas entendre la parole des femmes. À la base de tout ça, il y a le fait, et j'ai essayé de le dire à tous les gens qui commentaient sur Facebook, j'étais là, ce que vous êtes en train de faire, vous décidez de commenter pour remettre en question et en cause ce que la personne vient de dire. Vous ne lui demandez pas son avis. Vous ne dites pas, tiens, c'est bizarre, moi je me suis dit que. Vous dites de base, oui, enfin ça c'est exagéré, c'est pas vrai.
Complètement.
Donc, dès la dynamique, c'est pour ça que je parle du fait que c'est lié avec le féminisme. Dès le départ, le problème, c'est qu'on est. C'est qu'il y a une prise de conscience nécessaire, sociale, de réaliser que la plupart des gens ont une facilité à balayer la parole des femmes.
Mais ça, c'est très connu des hommes et des auteurs, des hommes, ou des agresseurs, je veux dire. Mais comme, allez, c'est une majorité, 90% étant des hommes, on va dire des hommes, désolé, agresseurs, des auteurs, c'est le silence, là, est roi. Parce que par ton silence, on ne peut pas détecter ou balayer ton argument qui disait, mais pour moi, elle était consentante. Parce que quand tu vas expliquer, ouais, mais là, j'ai insisté, j'ai tenu le poignet de force, à quel moment la personne va dire, mais... pour toi, tenir la poignée de force, c'est consentant. Donc, en se taisant, le fait que, oui, j'ai parlé à l'oreille de quelqu'un, il se protège de jugement public, mais on les autorise. L'impunité, elle vient aussi de ça. Et c'est reproduit dans les cours de justice. C'est quand on a l'opportunité de dire, on ne va pas faire parler l'auteur, l'agresseur, le prétendu coupable. C'est parce qu'ils savent qu'il peut se démonter, il va se desservir lui-même.
Oui, c'est ça. Donc l'omerta, elle marche dans tous les sens.
L'omerta, elle marche dans tout. Voilà,
exactement. Mais après, le problème de la parole des femmes...
Et il y a des problèmes de ressenti aussi.
Le fait qu'il y a des études qui montrent que les hommes coupent la parole des femmes, que dans des réunions professionnelles, une femme donne une idée, que l'idée n'est pas entendue, et si un homme la répète, tout le monde dit « Ah, elle est super cette idée » en s'adressant à l'homme. Je veux dire, il y a des études dessus, là-dessus. Et le problème, c'est que ça, c'est tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire que les femmes n'écoutent pas les femmes dans les réunions professionnelles.
Oui, oui, oui. Quand il y a... ça dépend... C'est un vrai travail.
Oui, c'est ça.
Y a
tu peux développer des stratégies.
Qui sont travaillées, développer des stratégies. Moi, j'ai vu cette évolution. J'ai assisté à une réunion il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, où c'était complètement le cas. Et voire même l'homme qui commence à vraiment dire « je ne t'entends pas, en fait ». Tu vois, à mettre tellement la personne en difficulté qu'après, elle bafouille ou elle n'arrive plus à s'exprimer par des mots, genre, mais c'est pas clair ce que tu veux dire, tu peux dire précisément, etc. Enfin, bon, bref, des bonnes techniques de, pour moi, d'intimidation.
Non, mais, oui, mais tu le dis comme ça, comme si c'était une évidence, mais je pense que la plupart des gens pensent que c'est pas une méthode d'intimidation, qu'au contraire, ça prouve qu'il a essayé de la comprendre.
Je pense, mais moi, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai pris la parole. J'ai pris la parole, puisqu'il y avait une autre femme qui, elle-même, donnait l'impression, je ne comprends pas. Et moi, j'ai dit, moi, je comprends. Et écoutez-la, et allez jusqu'au bout. J'ai dit, mais par contre, on n'a pas les mêmes perceptions. Donc, en fait, ce n'est pas que tu. Que ce n'est pas clair. C'est que quand ta perception, ta manière de voir les choses ne te permet pas de comprendre ce qu'elle est en train de dire. Et ces études, elles montrent que c'est.
Et du coup, ils ne font pas l'effort.
Voilà. J'ai dit, c'est des trucs de base. Et c'est des perceptions, en fait. Donc, à partir du moment.
Tout ça pour dire qu'il y a un continuum clair entre le crime sexuel et la dynamique genrée de la société. On ne peut pas séparer les choses. Tout est lié et il y a une version extrême et il y a une version, entre guillemets, j'ai pas envie de dire bénigne parce qu'elle n'est pas bénigne, mais subtile et parfois imperceptible. Mais elles sont toutes liées. Je vais terminer parce qu'il faut vraiment qu'on arrête. Malheureusement, cet enregistrement, il faut que je parte. Je voudrais terminer quand même sur le fait que toi, donc ça fait 10 ans que tu as ce projet de série. Et je pense que c'est un projet dont on a besoin. En plus, c'est une série. Bon, après, ce projet, ça fait pas 10 ans que tu l'as écrit, il a pas bougé. Hein. C'est une idée qui date d'il y a 10 ans, que tu as développée de plein de façons différentes.
Tout à fait.
Pour justement trouver la bonne façon de l'utiliser. Moi, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. J'aimerais bien que tu nous dises un mot de l'expérience que tu as eue à essayer de parler de ce sujet, surtout de proposer une fiction sérielle, donc pas juste un téléfilm, autour de cette question-là.
Dans les premières. Excuse-moi, je t'ai
coupé. Vas-y.
Dans les premières versions, l'aspect thriller, il y avait des aspects qui étaient peut-être trop frontal pour les lecteurs, puisque c'était au stade de Bible, et qui avaient de mal à se projeter dans un programme qu'ils allaient regarder parce qu'ils le trouvaient anxiogène, parce qu'ils apprenaient tellement d'informations, à savoir le nombre de personnes, le nombre de victimes.
Je pense que l'aspect thriller,
pour
le coup, là, t'as perdu les auditeurs, parce que vu qu'on n'a pas du tout parlé de ça tout à l'heure quand on a parlé du projet, et je veux pas que tu rentres dans le détail, parce que je veux pas que tu le déflores, ce magnifique projet, mais disons qu'au départ, il y avait un des aspects, il y avait une trame général, un fil rouge qui donnait un côté un peu thriller autour de la vie de cette association. Je précise juste pour que les gens soient pas perdus.
Tout à fait.
C'était assez cru. Enfin, pas cru en fait. C'était juste frontal. Ça parlait pas directement
frontal
du trauma.
Pour moi. Mais c'était un parti pris fort qui faisait que les gens avaient fait un gros focus dessus et d'où mon travail de réécriture pour faire ressortir vraiment tout l'aspect du quotidien. Et après, homme comme femme, il y avait des vraies interrogations et questionnements sur du coup la lecture et la perception sur comment ils pourraient regarder le programme, parce qu'en fait, eux, ils ne comprenaient pas comment ça se passait pour les victimes. Ils ne comprenaient pas déjà même la culture du viol. Quand je l'ai mis dans le dossier, ce n'était pas un mot je pensais qu'il était connu de tout le monde, et donc les principes de la culture du viol. Donc, c'est des choses à expliquer. Donc, c'est plusieurs dimensions qui devaient s'incarner dans la série pour que les gens puissent en fait s'identifier aux membres et aux victimes pour comprendre à quel moment. Puisque quand ils vont regarder la série, ils vont être du côté, on va dire, des victimes, c'est de réapprendre, de rééduquer par l'image et par les situations et les intrigues sur qu'est-ce qui constitue la culture du viol, qu'est-ce qui est le système judiciaire, l'impact, qu'est-ce qui est fait au jour d'aujourd'hui, quels sont les dispositifs qui existent réellement. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas, dans les premières versions, de présence des hommes. Moi-même, inconsciemment, j'avais du mal, en tout cas, à mettre la présence des hommes aux yeux des lecteurs, plus masculins, avait une représentation négative. On revenait sur cette histoire de silence de la parole. Donc, ils étaient inactifs, voire impuissants.
Tu veux dire, c'était des...
des personnages.
C'était, non, mais oui.
Oui. Non, excuse-moi, je le dis pour les gens, parce que je dis
c'était des auteurs de viol ou c'était pas des auteurs de viol?
C'était pas des auteurs de viol.
Les personnages c'est masculins, mais il y avait des personnages masculins qui étaient passifs.
Il y avait un personnage, voilà, passif. C'était des maris, voilà. Ça pouvait être des conjoints, des collègues.
Ouais, d'accord.
Et alors après,
et ça mettait mal à l'aise les lecteurs masculins.
Ça mettait mal à l'aise les lecteurs. Ils voulaient voir quand même une représentation d'hommes actifs.
Après, je pense que c'est pas.
Et positif.
C'est pas faux, mais c'est intéressant à quel point.
Ça m'a permis de faire évoluer le projet, parce que là aussi, je me suis dit, ben tiens, dans la perspective d'un pôle de scénaristes, oui, bien sûr qu'il y aura des hommes et qu'il y aura donc des points de vue pour enrichir la caractérisation des personnages masculins et surtout dans les intrigues.
Et puis on a envie qu'ils soient actifs, en fait. Enfin,
on a envie
moi,
qu'ils
dans la
actifs.
Vie, comme je le disais, j'ai envie que les hommes s'inquiètent de ces questions-là. Il n'y a rien de mieux qu'un homme qui écoute, il n'y a rien de mieux, une histoire comme ça, il n'y a rien de mieux. Qu'un homme, enfin, il y a un des témoignages contre Weinstein de Florence Darnell était chez Quotidien, dans l'émission Quotidien. Et il y a un moment où elle parle pendant une minute et quelques, il lui dit rien, il la regarde et il l'écoute. Et à un moment, elle s'excuse et il dit non, vous excusez pas. Enfin, tu vois, il y a un côté, t'as l'impression qu'il a envie de l'écouter encore plus. Et ben ouais. Je suis désolée, mais ça, c'est hyper important, quoi. Donc, et c'est pas passif, hein, l'écoute active.
C'était une écoute active, mais après, c'était dans l'action. Alors moi, après, c'est du coup projet personnel écrit, co-écrit avec Maëlys Volpi, une jeune scénariste, auteure également. Donc j'avais aussi le point de vue d'une non-survivante. C'était quelque chose qui était nourri
d'un
point
précisé,
de vue quand même...
Tu fais partie des...
de collectif de scénaristes.
Non, tu voulais dire tu es survivante. Non.
Oui, je suis sur
la pas
aussi.
Précisé,
oui,
parce que voilà, c'était pas nécessaire. Mais là, vu que tu viens de le dire, on sent le dire clairement.
Ah, d'accord, je pensais l'avoir dit en disant que j'allais participer au documentaire.
Oui, mais ça pouvait vouloir dire plein de choses. Je pense pour les gens qui n'ont pas conscience.
J'aurais pu être chef-op.
Non, mais voilà, t'aurais pu être plein de choses.
Et en effet, donc, ça m'a permis de faire évoluer la série, de travailler sur la vision masculine, la perception masculine, et une vision des auteurs, en fait.
Mais je suppose que quand t'as parlé du projet, c'était quand même arrivé souvent d'avoir des gens, hommes et femmes, qui n'avaient juste pas envie de lire ou pas envie d'en parler.
Oui, clairement, on pouvait me dire, mais tu penses que c'est pour quel cas, qui va vouloir regarder ça, c'est trop anxiogène, les gens ont envie de rire, ça peut être traité, bon pour le moment on dit, ça peut être traité qu'en unitaire, etc., je vois pas comment on peut faire un rendez-vous avec ce sujet.
Alors que, vu le nombre de séries de flics avec des gens qui sont trucidés et coupés en morceaux...
Oui. Tout à fait. Donc, souvent, je fais référence à ces séries que je regarde moi-même et qui ont l'air de. Et qui durent pendant des décennies. Hein. Donc, en fait, ça pose un vrai souci par rapport à la thématique. Pour moi, c'était tout simplement. Et puis, la gêne peut-être de moi, de m'avoir moi en tant qu'auteur qui. Personne n'ose me demander si je suis une survivante ou pas. Personne n'ose me demander quelles sont mes sources, parce que j'ai fait un travail d'investigation aussi quand même, interroger des policiers, d'autres survivantes, des personnes dans des associations. Et j'ai eu des témoignages, on va dire, de complices qui ne se sentaient pas vraiment complices non plus. Et jamais eu de témoignage d'auteur, c'est vrai, mais j'ai eu l'occasion de tomber sur un TEDx et puis des initiatives anglo-saxonnes qui font avancer ces questions-là et où il y a des auteurs dans le cadre de travail d'expérimentation qui s'expriment, voire qui font un travail de réconciliation en reconnaissant les victimes, en disant... en reconnaissant ce qu'ils ont fait. Ça, c'est complètement salvateur pour la victime aussi, cette reconnaissance-là. Et du coup, ça a donné tout à fait un autre angle à la série. Et je trouve que maintenant, quand je l'ai pitché au jury lors de la formation, la réception était déjà beaucoup plus... Ah oui, clairement.
Bah, écoute, ça fait... c'est... Donc, en gros, elle est en train de dire que ma formation, elle est vachement bien.
Mais elle est géniale, cette formation. Ah, bah, Ariel, elle m'a secoué. Cette formation, c'est aussi bien les 5 jours. Je suis dans le... Dans le mouvement, je suis agitée, mais cette formation, merci à toi, elle m'a poussée dans mes retranchements, mais vraiment, encore maintenant, je dois pouvoir exprimer, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on veut dire de tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire demain, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, et d'être dans une proposition aspirationnelle, mais ne pas se voiler la réalité. Ouais. Donc apporter tous ces éléments-là pour créer un rendez-vous et dire mais attendez, hein, c'est pas si noir, hein, c'est pas si sombre, hein, il y a des solutions, il y a des histoires lumineuses, on peut retravailler
la meilleure chose que vous pouvez faire aux survivantes, c'est de les écouter, de les entendre, de les croire, d'avancer avec et d'apprendre avec.
Et de regarder le programme.
Ouais, c'est ça. Faut qu'on arrête de parler parce que c'est terrible et m'entraîne, j'ai un cours de chant et je suis en retard. Et je dis ça dans mon podcast, oui, c'est comme ça. Patience, merci de ton temps, merci de ce témoignage. On a parlé de plein de choses, je pense qu'on avait juste besoin de parler, je pense que d'autres gens avaient peut-être besoin de l'entendre aussi pour pouvoir parler à leur tour. Vous êtes invité à nous commenter tout ça, je vais essayer de le mettre très très vite en ligne, promis, celui-là, je le montrerai tout de suite. Et commentez, dites-nous sur Twitter, ailleurs, ce que vous en pensez, vous avez toutes les informations. Dont je vais essayer de vous mettre le plus de liens par rapport aux choses dont on a parlé possible sur le site qui est icannotsitstill.com, icannotsitstill, donc www au début. Je vous invite à nous suivre après, il y aura toutes les infos pour nous trouver sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général sur le site. En tout cas, merci Patience, merci d'avoir parlé de tout ça. Peut-être qu'on pourra refaire un petit point dans quelques temps s'il se passe des choses qui nous permettent d'ancrer notre conversation sur quelque chose de concret.
Merci Yaël, en tout cas, ça m'a fait un grand bien de partager tout ça. On en avait envie et c'est fait. Donc voilà. À très bientôt.
Bah écoute, à très vite. Et puis moi, ce que je dis toujours à la fin du podcast, bonne pop d'ici là.
Bonne pop tout le monde.